άντρα και μου σημαίνει ο Κασέρο για σας. Συρρεπεί totalement cette
histoire.
Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, cet espace de liberté du Congo profond, une sorte de parlement d'idées des Congolais de toutes les provinces, toutes catégories sociales, de toutes tendances politiques, peu importe votre niveau intellectuel. Vos idées sont les bienvenues dans l'émission Parole aux auditeurs. Le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, est depuis hier en Ituri, dans la province orientale, et c'est d'après lui pour écouter la population de ce coin meurtri par des exactions des groupes armés. À ce jour, quatre Congolais sont détenus par la CPI, Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo. Alors, comment comprenez-vous la mission de la Cour pénale internationale CPI et qu'attendez-vous d'elle? Vos réactions et témoignages en direct sur nos antennes sont les bienvenus dans cette émission Parole aux auditeurs sur cette question. Un invité dans cette émission, Patrick Tchiboui, il est assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale CPI. Excellente condition d'écoute à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Patrick Tchiboui.
Bonjour.
Vous êtes assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale CPI. Beaucoup de Congolais pensent que la CPI n'a été créée que pour les Africains. Il n'y a que des Africains pour l'instant dans ces prisons. Quelle est alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes simples la mission de la Cour pénale internationale?
Oui, merci beaucoup d'avoir bien voulu m'inviter à votre émission. J'aimerais, avant de répondre à votre première question, présenter sincèrement nos condoléances à M. Jean-Pierre Bemba pour le décès de son père, présenter des condoléances à sa famille biologique, donc à Jean-Pierre Bemba, à toute sa famille, mais également présenter des condoléances à toute la famille politique du papa de M. Jean-Pierre Bemba.
Donc le corps est arrivé aujourd'hui, hein, du papa de Jean-Pierre Bemba.
Donc très sincèrement, toutes nos condoléances. Alors, j'aimerais, par rapport à votre question, oui. il est clair que la Cour pénale internationale a une mission qu'elle a reçue des États qui l'ont créée. Mmh. Et ces États, en créant la Cour pénale internationale, lui ont donné le mandat de pouvoir rechercher des auteurs des crimes graves, de pouvoir les poursuivre, de pouvoir les juger. Et ces crimes, il s'agit de crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est le mandat qu'a reçu la Cour pénale internationale. Et pour ce qui est des poursuites contre des pays africains, je pourrais dire, répondre à cette question de manière tout à fait simple. Dans tous les pays africains où la Cour pénale internationale met les enquêtes, en dehors du Darfour, la Cour pénale internationale est venue à la demande de ces États. Si nous menons des enquêtes au Congo, c'est parce que le gouvernement congolais a demandé à la Cour pénale internationale de venir mener les enquêtes. Mmh. C'est le cas pour la Centrafrique, c'est le cas pour l'Ouganda. Le seul cas où nous sommes allés mener des enquêtes à la demande du Conseil de sécurité, c'est le Darfour. Donc, il n'existe aucune situation en Afrique aujourd'hui où la Cour est allée mener des enquêtes de sa propre initiative. Donc, si ces États n'avaient pas demandé à la Cour de venir mener des enquêtes, probablement qu'à ce stade ici, nous n'aurons qu'une affaire, une situation celle du Darfour, parce que ça demande le Conseil de sécurité. Mais donc, il faut savoir une chose, que nous sommes en Afrique parce que les gouvernements africains ont demandé à la CPI de venir mener des enquêtes sur leur territoire.
Parce que je ne le dis pas de moi-même, hein, ce sont quelques auditeurs qui le disent. Il y a par exemple Paty Singai de Bounia dans la province orientale qui dit que la CPI a été créée pour anéantir toute personne qui s'oppose aux idéologies des Occidentaux ici en Afrique. Il y a aussi Kamango de Beni au Nord-Kivu qui dit, conformément au mandat déjà lancé par la CPI dans le monde, on risque de dire que cette dernière a été intentionnellement créée pour les Africains seulement, car ce sont eux, les Africains, qui sont considérés comme des cobayes ou petits poissons dans les laboratoires de la CPI. Voilà.
Je pense que c'est une façon pas très juste de voir la Cour pénale internationale. Je me rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment-ci que lors de la création de la Cour pénale internationale, les négociations qui ont eu lieu à Rome, les États africains se sont énormément impliqués pour qu'on en arrive à la création de la Cour pénale internationale.
En quelle année la création de cette Cour?
Le 17 juillet 1998, c'est à cette date que la Cour pénale internationale a été créée. Et pendant toutes les négociations qui ont eu lieu à Rome, les États africains, lorsque vous lisez les annales, vous lisez les discussions qui ont eu lieu, vous allez voir comment les États africains se sont impliqués. Et j'aimerais même dire que lorsque vous voyez parmi les États partis au statut de Rome, vous avez une grande représentation en termes de comparaison au niveau des différentes regroupements géographiques, vous verrez que l'Afrique est très bien représentée. Et j'aimerais encore rajouter que le premier pays à avoir ratifié le statut de Rome est un pays africain. Donc c'est pour vous dire...
Mais lequel?
Le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est pour vous dire que donc, la création de la Cour pénale internationale...
Et le président Wade, aujourd'hui avec beaucoup de présidents africains opposés à la coopération avec la CPI en ce qui concerne l'arrestation du président soudanais Béchir.
Je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Je considère simplement qu'en dehors de toute considération ou déclaration de politique, au stade actuel, sur le plan juridique, tous ces États... ce dont vous venez notamment de citer, comme le Sénégal et les autres, aucun État africain qui a ratifié le statut de Rome s'est retiré du statut de Rome. Donc, de ce fait...
Mais il y a des réticents aujourd'hui.
Mais sous le
refusent de délivrer certaines personnes que dont la CPI a besoin, comme la RDC qui ne veut pas livrer Bosco Ntaganda.
Je crois que nous avons tous suivi à ce sujet la réaction du porte-parole du gouvernement, qui était tout à fait claire. Et donc, je ne pense pas qu'il y a lieu à ce stade ici à mettre un débat sur ce sujet.
Voilà. Merci beaucoup. On vous garde encore dans cette émission. Vous allez peut-être aussi nous répondre par rapport au procès des quatre personnes qui sont déjà dans les prisons de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Germain Katanga et Mathieu Mbusolo. Où en est-on avec leur procès? Juste le temps de prendre Justin de Kinshasa, Blanchard de Mbandaka et Daniel de Boutembo qui sont déjà en ligne. On va les prendre d'ici quelques instants.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Justin. Justin, bonjour. Voilà, apparemment Justin n'est pas en ligne. Nous allons tenter d'aller en Mbandaka où je pense est déjà au rendez-vous Blanchard. Blanchard, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Bonjour, quelle est votre position par rapport à la mission de la CPI?
Oui, ma position par rapport à la mission.
Oui, comment vous la comprenez, cette mission de la CPI, et qu'est-ce que vous attendez d'elle?
Ah, bon, on attend rien de spécial. Hein. Il n'y a rien de spécial qu'on doit s'attendre à cette mission-là. On a remarqué que cette cour a été justement créée pour les pays africains et surtout notre pays qui est la RDC.
Comment est-ce que vous avez des preuves? Quelles preuves avez-vous pour parler ainsi?
Oui, j'ai des preuves. Les preuves sont là. On a des Haïtiens qui sont là-bas à la CPI, rien que de Congolais, à moins que je me trompe.
Oui, mais donc donc vous dites que vous n'attendez rien de cette cour parce que elle n'a été créée que pour les Africains. C'est ça votre idée?
Oui, c'est ça mon idée. Au début, j'avais vraiment apprécié cette initiative de cette cour là. Puisqu'elle était la bienvenue pour tous les pays africains. Comme ici, il y a trop de guerres et tout ça. La justice de notre pays n'est pas vraiment correcte, tout ça.
Blanchard,
on était d'accord pour cette cour, oui?
J'ai envie de vous poser une question. Hein. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs, notamment en Ituri, dans la province orientale et partout ailleurs, ont subi des exactions et des atrocités des groupes d'armées, dont certains chefs sont emprisonnés à la Cour pénale internationale. Est-ce que pour eux aussi, la Cour n'a pas d'importance?
Bon, pour eux, vraiment, la cour a beaucoup d'importance. Mais cette cour-là doit être, qu'est-ce que je peux dire? Elle doit être une cour qui va bien juger les gens qui commettent ce genre de violence là à la population.
Merci beaucoup Blanchard. Je rappelle que vous interveniez d'une Bandaka dans la province de l'Équateur. D'une province à une autre, nous allons descendre un peu plus à l'est du pays où Daniel est sur place. Vous êtes à Butembo. Daniel, bonjour. Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui du précédent auditeur?
Oui, bonjour Claude, bonjour à tous les invités de la radio Capi. Je ne partage pas totalement le point de vue du présent, disons du précédent auditeur, sauf que j'aimerais soulever des
observations. Dans quel sens? En quoi n'êtes-vous pas d'accord avec le précédent auditeur?
En fait, la Cour pénale internationale a sa raison d'être. Ça, c'est, on ne peut pas dire que elle est faite spécialement pour les Africains. Nous sommes sans ignorer que ce sont les Africains qui commettent beaucoup d'infractions, disons des crimes contre l'humanité et même le crime humanitaire. Mais mes observations se situent à deux niveaux. D'abord, la première, l'invité qui est sur votre plateau a dit tantôt que cette cour est venue en RDC sur demande du gouvernement. Et donc, à mon sens, j'estime que le gouvernement congolais est irresponsable, ou mieux, il n'a pas eu confiance à nos cours qui se retrouvent au niveau du pays. Parce que cette question où la justice devait être dite d'abord au niveau de notre pays. On devait arrêter tous ces auteurs-là, des crimes contre l'humanité, au niveau du pays, et les juger d'abord au niveau du pays. Donc, dès lors que le gouvernement s'engage à appeler la Cour pénale internationale pour juger ce citoyen, cela signifie qu'il n'a pas confiance à sa propre justice. Et là, ça pose déjà problème. Quel jour, nous, Congolais, nous serons en mesure d'avoir confiance en nous-mêmes pour nous assumer nous-mêmes? Ça, c'est la première observation. La deuxième, ce que je soulève, c'est que la Cour pénale internationale est en train de traiter retard tous ces dossiers-là. Imaginez-vous, depuis qu'on a arrêté Thomas Lubanga, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de clarté. Et même ces victimes-là, ils se patientent. Donc, on devait, en fait, réunir tous les moyens pour faire en sorte que le procès avance de façon plus vite, afin que les droits soient dits à tous les niveaux, pour que les victimes aient leur part, s'il s'agit de payer les dommages, qu'on le fasse, s'il s'agit de l'innocenté, qu'on le fasse aussi, que les opinions soient fixées à ce niveau-là. Mais le fait que la question est en train de traîner, la lenteur dans la procédure même, cela nous inquiète beaucoup plus et ça remet en cause la crédibilité de cette cour même.
Voilà, merci beaucoup, on vous a compris. En ce qui concerne la question, votre idée, hein, vous dites que l'État congolais n'a pas confiance en sa propre justice, ça c'est le gouvernement congolais qui peut vous répondre, hein. Ce n'est pas notre invité, parce que vous vous souviendrez, le 30 juin dernier, même le président de la République avait décrié la corruption au sein de la justice congolaise. Patrick Tshibouyi va vous répondre en ce qui concerne la lenteur, hein, d'après vous, dans le travail de la CPI. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir contacté depuis Butembo, dans la province du Nord Kivu. D'un auditeur à un autre, nous allons nous rendre au nord du pays. Didier est déjà à Guadeloupe. Didier, sur place d'ailleurs, à Guadeloupe. Bonjour Didier, j'espère que vous êtes au rendez-vous.
Ok, bonjour Claude.
Allez-y, on vous écoute. Vous avez suivi les deux premiers auditeurs. Quelle est votre réaction? Êtes-vous d'accord avec l'un ou l'autre d'entre eux ou bien vous êtes totalement opposé à ce qu'ils ont dit?
Ok, Claude, je ne partage pas tellement les avis des précédents auditeurs.
Dans quel sens?
Mais j'ai quelques préoccupations à avoir de la lumière auprès de monsieur l'invité qui est au studio.
Oui, mais d'abord, en quoi ne partagez-vous pas le point de vue de deux précédents auditeurs?
Bon, en ce qui concerne la réaction de nos auditeurs, je peux dire que je suis pour parce que créer la CPI pour chercher des gens qui commettent de crimes graves, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais j'ai des préoccupations, comme je vous avais dit.
Oui, allez-y.
Ok, la première. Pourquoi la Cour pénale internationale s'appuie-t-elle, hein, Claude, aux affaires africaines, tandis que partout dans le monde, il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui se produisent. La deuxième, est-ce qu'un pays signataire des statuts de Rome peut aussi par après retirer sa signature? Et la dernière petite question, j'aimerais avoir la réaction de la Cour pénale internationale face à la position de l'Union africaine qui refuse de coopérer avec cette dernière. Alors, je vais avoir quelques lignes sur ça.
Voilà. Merci beaucoup, Didier. Je retiens vos trois questions. Pourquoi la CPI ne se focalise que sur l'Afrique? Un pays peut-il se retirer? Un pays signataire du statut de Rome peut-il se retirer de la Cour pénale internationale? Et la troisième préoccupation, c'est quoi, s'il vous plaît?
Donc, la troisième est de lui donner la réaction, hein, la réaction, oui, des
réaction par rapport aux pays africains.
De l'Union africaine. Okay. Il essaie de coopérer avec la CPI.
Okay. Merci beaucoup, hein, Didier. Je rappelle que vous intervenez depuis Guadeloupe dans la province de l'Équateur. Je vais laisser à Patrick répondre à ces différents aux auditeurs. Je ne sais pas avec qui vous allez commencer. Peut-être avec le dernier.
Oui, moi, peut-être je commence par le premier et puis on
va d'après vous.
Mais je crois qu'il est important tout d'abord d'insister sur le fait que lorsqu'un État renvoie une situation à la Cour pénale internationale, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un gouvernement irresponsable. Je l'ai dit dès le départ que lorsque les États se sont réunis à Rome pour créer la Cour pénale internationale, ils se sont mis d'accord pour que la Cour pénale internationale soit une juridiction complémentaire. Cela voudrait dire que la première responsabilité de juger les auteurs des crimes graves internationaux, les premiers responsables, ce sont les juridictions nationales. Mais la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque ces juridictions nationales n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité de le faire. Et donc, les États peuvent valablement, sous base de ce principe de complémentarité, demander à un État, à la Cour pénale internationale, de pouvoir venir mener des enquêtes pour les crimes commis sur leur territoire. Et les raisons sont tout à fait évidentes, tout à fait simples. Lorsque vous avez par exemple un pays qui vient de sortir d'une crise, d'un conflit armé, il est clair que sur le plan infrastructure, sur le plan logistique, sur plusieurs plans, elle n'est pas en mesure de pouvoir connaître ce type de crimes. Il faut signaler qu'ici, il ne s'agit pas de crimes d'escroquerie, il ne s'agit pas de crimes de vol, il s'agit de crimes internationaux, des crimes extrêmement graves qui demandent une plus grande capacité, un plus grand moyen logistique.
Comme quoi, par exemple?
Les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes, ce sont des crimes graves. Pas la même comparaison que les scroqueries.
Vous pouvez nous donner quelques petits exemples, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, dans des termes simples, hein, pour que. C'est des termes juridiques, hein, qui passent souvent comme ça, mais beaucoup de gens ne comprennent pas.
Oui, tout à fait. Par exemple, le crime de génocide qui est le plus connu, parce qu'on a un exemple dans le monde qui se sont manifestés, lorsque, par exemple, il y a une volonté planifiée, systématique, de pouvoir s'en prendre à une population en sous-base de sa race, sous-base de son ethnie, de sa culture, et que l'on veut décimer cette population, lorsque c'est fait de manière systématique avec cette intention, là on peut se retrouver en cas d'un crime de génocide. Donc ça c'est un exemple, je prends cet exemple qui est le plus simple et le plus facile. Et ces types de crimes sont des crimes qui sont extrêmement graves. Et donc, il est clair, et c'est tout à fait normal, produit par le...
Et les crimes contre l'humanité, c'est par exemple les attaquer à des civils sans armes,
civils,
des viols.
Oui, le viol systématique, lorsque ce n'est pas le viol d'un seul individu, parce que là, ça relève du droit commun, mais lorsqu'il y a une planification, lors d'une attaque, il y a planification, dans le cas d'une attaque généralisée, systématisée, planification des viols commis à l'encontre d'une population, on peut se retrouver, en fin de compte, dans le cas de type de crimes contre l'humanité. Et les crimes de guerre, lorsqu'on a une situation de conflit armé, vous posez certaines attitudes, vous bombardez les établissements civils, vous en prenez aux civils, dans le cas d'un conflit armé, vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on appelle le type de crime de guerre.
Voilà, il y a des auditeurs qui sont déjà en ligne, hein, Mathieu de Kananga, Kamango de Béni et Maître Lévin de Kinshasa. Donc on va répondre rapidement pour leur donner aussi l'occasion de s'exprimer. Il y a Daniel de Boutemo qui a parlé de la lenteur dans le travail de la CPI, il parle du cas Lubanga.
Il n'y a pas de lenteur, il y a un effort qui est fait par la Cour pénale internationale de respecter ce droit qui est reconnu à toute personne poursuivie d'être jugée dans un temps qui n'est pas excessif. Et ça, c'est un principe fondamental auquel la Cour pénale internationale tente de se soumettre. Mais chaque cas a des spécificités. Vous devez savoir que le cas de Lubanga a présenté beaucoup de spécificités. À un moment donné, son avocat s'est retiré. Il fallait que M. Thomas Lubanga puisse se charger un nouvel avocat. Ce nouvel avocat devait constituer son équipe. Et nous avons eu aussi ce problème qui aboutit la suspension du procès par le juge en rapport avec des documents qui n'étaient pas mis à la disposition de l'avocat de la défense, M. Thomas Lubanga. Ce sont là donc quelques éléments qui se sont produits au niveau de la procédure et qui peuvent avoir un impact sur la durée du processus. Mais pour le moment, le procès est en cours et nous pensons que les choses évoluent normalement.
Parce que c'est quand même c'est en 2006, en novembre 2006, en ce qui concerne Thomas Lubanga, que la chambre préliminaire avait en effet confirmé des charges qui pesaient contre lui lors de la première audience de confirmation des charges.
Oui,
en 2006,
oui,
en novembre. C'est quand même assez loin. Hein.
Si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition en droit interne comme en droit international qui vous fixe le délai d'un procès pénal. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un délai pour un procès pénal, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international.
Non, mais là, ça risque de devenir comme la RDC où des gens sont maintenus en prison comme ça sans être jugés des années et des années.
Pas du tout. C'est pourquoi je dis qu'il y a cette disposition fondamentale clairement établie dans le statut de Rome qui reconnaît à la personne poursuivie le droit d'être jugée dans un délai qui n'est pas excessif. Ça, c'est une garantie reconnue à la personne poursuivie consacrée par le statut de Rome.
Et c'est quelle durée un délai qui n'est pas excessif?
Mais justement, maintenant, ce délai est pris en fonction de chaque cas spécifique. Un exemple clair, vous allez peut-être remarquer que le procès de Thomas Lubanga peut prendre 2 ans, mais ça ne veut pas dire que tous les procès qui vont venir après prendront 2 ans. Ça ne veut pas dire.
Et s'il est condamné, on va retrancher ces 2 ans?
Le principe de cumulation, comme ça se passe en droit interne, une fois la condamnation et le temps passé, effectivement, c'est un principe qui est aussi en droit national qui est appliqué.
Voilà. Donc, vous allez répondre graduellement à toutes ces questions parce qu'il y a des auditeurs qui attendent en ligne.
Le magazine Association, c'est votre rendez-vous avec les décideurs et les acteurs sociaux. Santé, économie, transport, éducation, travail, parler des problèmes qui vous concernent sur votre radio. De lundi à vendredi, venez nous rejoindre à partir de 9h, heure de Kinshasa. Association, le magazine de la vie au quotidien. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes bien dans l'émission Parole aux auditeurs, cette émission interactive de Radio Okapi qui vous permet d'intervenir en direct pour donner votre point de vue sur notre thème du jour. Et justement, je vous rappelle ce thème du jour, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, est depuis hier mercredi en Ituri dans la province orientale. C'est pour, d'après lui, écouter la population de ce district qui a beaucoup souffert des exactions et atrocités des groupes armés. Alors, comment comprenez-vous la mission de la CPI et qu'attendez-vous d'elle? Vos réactions et témoignages en direct sur nos antennes sont des bienvenus. Nous avons un invité pour répondre justement à vos questions, vous auditeurs de Radio Papi et auditrices. Il s'agit de Patrick Tchiboui, il est assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale CPI. Et si vous voulez intervenir en direct, appelez-nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800 et où que vous soyez, nous vous rappellerons tout de suite après. L'autre possibilité, c'est de nous envoyer votre mail ou de nous dire que vous voulez intervenir, nous envoyer vos coordonnées par SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222 et par Internet, faites-le nous parvenir à l'adresse pa@radiookapi.net. On commence avec vous, Mathieu, vous intervenez à partir de Tananga dans le Kasaï occidental. Bonjour, allez-y rapidement.
Oui, bonjour, monsieur Claude. Hein.
Oui.
Je vous demande d'abord de vous expliquer que j'ai terminé mon idée.
Mais...
Moi, je trouve que c'est encore un excuse pour les peuples congolais. Je ne crois
c'est
pas dans des pays qui pensent. Je pense surtout des responsables internationaux, à l'occurrence des Occidentaux surtout. Si les peuples militaires, qu'on ne porte pas dans ce pays comme ce pays est sous la domination étrangère. Monsieur Louis Papon, le procureur de la Cour internationale de la Haye, est en visite en République démocratique du Congo. Pour faire quoi au juste à son déplacement vers l'est du pays, il est accompagné à cette telle autorité du pays. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de lire ce fameux statut de Rome, là où est sorti ce fameux Cour internationale de la Haye. Je n'ai jamais vu là où on a écrit politique internationale judiciaire de communication avec la population. L'idée sort. Et pas au juste, ou au juste également. Sur quelle base? Ça, c'est un auteur vraiment.
Mathieu?
Moi, je suis en train de me demander tout le pays et toute l'économie des Occidentaux. Il faut la loi faire n'importe quoi, le cas de ses propres dépenses, des ministres, à l'aide de l'économie de tous, pour le tout le compte de l'humanité. Ça, c'est juste. C'est bien pour nous. C'est bien le juge, c'est toujours le jugeant. Il doit être jugé et condamné. Autrement, il n'y a pas de justice. La Cour internationale de la rue a été faite pour juger que les Africains. D'après moi, il n'y a pas un seul Occidentaux qui a été arrêté. Mais à chaque jour qui passe, il n'y a pas de crime qui se fait en Occident. Il n'y a pas un qui se dit que ce bandit là, on peut manipuler cette année sur ce bandit, des ministres. Pour exploiter les ressources minières, pour les pays respectifs, au moment où le peuple congolais sont en train de faire, d'être pas du monde entier. Cette politique est une politique de la démocratie, de deux fois, deux mesures, de la haine raciale, d'après moi, de la
Doucement, doucement, Mathieu, quand vous parlez de haine raciale, je ne suis pas très, très d'accord avec vous. On va voir ce que va donner hein, le fonctionnement ces procès. Ben, on va voir l'évolution de la Cour pénale internationale. Mathieu, mais ici, on parle, en RDC, on a toujours parlé de l'impunité. On a toujours décrié l'impunité. Et même le chef de l'État a dit que même les magistrats eux-mêmes violaient la loi. Ils se manifestent par la corruption. Est-ce que ce n'est pas une façon également de nous aider à mettre fin à cette impunité si la Cour pénale internationale se charge de certains cas?
Moi, j'ai dit d'abord du cas des Occidentaux. Donc, à l'Occident, on parle de crimes. Les crimes économiques se font là jour par jour. Mais au combat, nous ne pouvons pas donc refuser de notre justice. Nous devons la justice, moi je l'accepte, je ne le nie pas. Il faut le juger à partir de notre pays de la République démocratique du Congo. La Cour internationale a opposé d'abord montrer l'exemple à partir de cette marketeur d'occidentaux. Ce n'est pas toujours au Congo d'où il y a donc les criminels.
Merci beaucoup Mathieu pour votre intervention. Je rappelle que vous intervenez à partir de Kananga dans la province du Kasaï occidental. Nous allons nous retourner à l'est du pays, notamment à Béni dans la province du Nord Kivu. Et Kamango, vous êtes présent. Bonjour Kamango. Allez-y, est-ce que vous êtes d'accord avec
Monsieur Claude Lopanga.
Vous êtes d'accord avec le précédent auditeur?
Donc, je vais poser une petite question à M. Patrick Tshibui.
Oui.
Quel est maintenant le rôle exact joué par la CPI? Parce qu'il a dit que si la CPI est intervenue en Afrique, c'est parce qu'elle a été invitée par les pays africains. Or, M. Claude, après que je sache, est-ce qu'il y a déjà 5-6 pays dans le monde qui ont déjà ratifié le statut de Rome? Et qui sont devenus membres, et pourtant, le continent africain n'a que 53 États, et d'ailleurs, M. Claude, ce ne sont pas tous les 53 États qui l'ont ratifié, c'est-à-dire le statut de Rome. Donc, on peut se permettre de dire que les autres pays signataires de ce statut, dont les signataires de ce statut, sont considérés comme des figures d'exception. Car il arrive des fois où, même dans ces pays-là, on fera des jugements similaires ou des pseudo ou des faux jugements. Bon, on sait que si la CPI doit intervenir, c'est lorsqu'une juridiction d'un pays quelconque a été impuissante et bien incapable de rendre un jugement. Et lorsqu'il y a eu, par exemple, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité.
Mais c'est le gouvernement congolais qui a invité là. C'est le gouvernement congolais qui a invité là.
Dans d'autres pays, dans d'autres continents, est-ce qu'on ne s'entretient pas? Comme l'a dit Mathieu de Pacto, est-ce que là on ne s'intéresse pas? Et quel est maintenant le rôle exact joué par la CPI?
Merci beaucoup, on vous a compris, Kamango. Donc vous intervenez à partir de Béni. Merci pour votre contribution. Nous allons accorder maintenant la parole à Maître Liévin, qui lui est ici à Kinshasa. Bonjour Maître Liévin, je sais que vous vous occupez aussi beaucoup de la CPI. Allez-y, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes dans une structure proche de la CPI, c'est ça?
En fait, je suis Maître Yévin Gondi, je suis avocat d'abord à Kinshasa.
Oui.
Ensuite, je suis avocat inscrit sur la liste des avocats devant la Cour pénale internationale, on appelle ça la liste du greffier.
Mmh.
Je suis membre d'une organisation des avocats près de cette Cour qu'on appelle le barreau pénal international et je fais partie de la coalition pour la Cour pénale internationale. En fait, nous travaillons sur cette question depuis 1999.
Maître, aussi, je vous comprends bien, donc vous pouvez plaider la cause de quelqu'un qui est inculpé au niveau de la Cour pénale internationale en tant qu'avocat?
Absolument, et j'ai choisi de plaider pour les victimes j'ai choisi de plaider pour les victimes des personnes qui ont commis des crimes, qui dont le procureur s'est saisi et qui sont instruites devant la Cour pénale internationale.
Allez, on vous écoute maintenant, maître.
Oui, mais moi, je suis étonné parfois par certaines interventions, notamment de celui qui m'a précédé à Kananga. Il a parlé avec une grande émotion en disant que la Cour faisait de la politique, alors qu'en réalité, dans ses propos, on retrouve vraiment de la politique. Moi, la question simple que je pose, c'est que qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'il y a une valeur différente entre un Thomas Lubanga, un Germain Katanga et des milliers de gens que ces gens auraient tués? C'est pas possible. On ne peut pas tout d'un coup devenir toujours le monde politicien et commencer à penser que pour une fois dans l'histoire de ce pays où les criminels sont jugés, Ocampo devient un ennemi du Congo. Mais enfin, il faut retrouver l'ennemi ailleurs. Donc je me calme et je demande à nos dames amis de nous calmer en disant il faut saluer la Cour pénale internationale. Vous voyez même l'agitation que les chefs d'État africains sont en train de manifester maintenant, et les signes qu'en fait, nous les Africains, nous commençons à devenir aussi des êtres humains. Parce que pour la première fois, même le chef d'État va nous respecter, va respecter un autre Africain en disant que c'est un être humain. Il ne peut pas au contraire décider à aller tuer les gens puisqu'il a une arme qui prend de l'argent de ce pays. Donc je pense que la Cour est une grande avancée pour qu'aujourd'hui nous puissions savoir que, quelle que soit la personne, quand je suis au pouvoir, si je ne me comporte pas conformément à la loi, tôt ou tard, les droits me suivront. On a entré dans un premier cas d'entrée dans la matière, ce que je peux donner comme commentaire, et je réconforte la position que donnait Patrick Tshibui en disant le délai. Oui, le délai comme Mbanga peut se plaindre que les procès prennent. Mais ce sont les victimes qui ont beaucoup plus besoin de que le procès aille juste que Thomas Lubanga, qui lui est traité comme un prince à la haie. Vous voyez? Et c'est lui d'ailleurs qui a embrouillé la Cour pour que le procès prenne tout ce temps.
Dans quel sens?
Il y a trop de choses que lui-même a organisées pour que le procès prenne du temps parce qu'il pensait qu'à un moment, on allait arrêter la procédure. Mal, il y en avait pris parce qu'aujourd'hui...
Moi, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait mettre pour freiner cette procédure, d'après vous, rapidement, si vous
voulez. La première des choses qu'il a fait, c'est Thomas Lubanga, c'est le fait de permettre à son avocat de commencer à se faire un certain nombre d'exceptions qui ne valaient pas la peine. Je parle ici en tant qu'avocat de victime. Ensuite, c'est lui-même Thomas Lubanga qui, à un moment même demandé qu'on puisse lui ajouter un certain nombre, notamment la prise en charge de surveillance. Bref, il y a un certain nombre d'éléments jusqu'à ce qu'on arrive à l'exception soulevée par la Cour du fait qu'il y avait des documents. C'est même pas la Cour, c'est son avocat qui a dit qu'il y avait des pièces que le procureur disposait, que lui n'avait pas.
Merci.
Là,
beaucoup.
L'avocat avait raison, et puis la Cour les a suivis, et puis finalement, on a levé cette suspension et on a permis à la Cour d'accéder aux documents. Et donc maintenant le procès va aller selon les normes et on va arriver à une décision. Donc il n'y a pas, ce n'est pas le procureur qui fait traîner la procédure. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup maître, je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup pour votre contribution puisque vous êtes dans le sillage de la Cour pénale internationale, vous êtes même avocat là-bas. Merci pour l'éclairage que vous avez accordé à nos auditeurs et auditrices. Au revoir maître Liévin Ngondji. Maître Thérèse, d'un avocat à un autre, nous avons maintenant maître Thérèse. Bonjour, vous intervenez à partir de Kinshasa. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour Claude.
Allez-y, on vous écoute. Quelle est votre position par rapport à la mission de la Cour pénale internationale? Vous avez suivi, qu'est-ce que vous attendez de cette Cour? Vous avez aussi suivi les autres auditeurs, les autres intervenants. Êtes-vous d'accord ou pas du tout avec eux?
Bon, malheureusement, je n'ai pas suivi tous les auditeurs, mais la mission qui attend la Cour pénale internationale est d'une délicatesse telle que les procès qui se tiennent devant cette Cour engage des États entiers, c'est pas seulement des procès qui engagent des individus, parce qu'aujourd'hui vous avez toute la liste des dossiers qui des prévenus congolais qui sont déférés là-bas. Mmh. Donc c'est pas seulement un problème d'individus, mais c'est aussi un problème d'État, parce que la Cour pratiquement vient en quelque sorte corriger les erreurs ou éviter les erreurs qui pouvaient se commettre dans l'instruction subjective d'un dossier criminel qui, pour des faits qui seraient déroulés dans un État. Donc, la mission dit sensibilité telle que la Cour déjà n'a pas droit à l'erreur, beaucoup plus que les juridictions locales.
C'est peut-être pourquoi elle traîne, hein, un peu pour prendre toutes les précautions possibles pour ne pas commettre d'erreur.
Justement. Vous voyez, il y a ça de fait très sensible. Je vous donne l'exemple qu'on vient de vous donner tout à l'heure. Thomas Lubanga, les faits qui sont mis à sa charge sont tellement sensibles, enrôlement d'enfants, massacres, etc. Si aujourd'hui Thomas Lubanga pouvait être relâché dans un délai court ou plus ou moins long, je ne sais pas, mais il ne pourra pas facilement revenir à Kinshasa ou dans toute autre province de la République, si la Cour ne demande pas à suffisance qu'il est effectivement innocent des faits qui sont mis à sa charge. Vous comprenez? Et ça, c'est cette sensibilité-là qui doit guider la Cour dans tous les dossiers qui sont déposés devant ces bureaux. Mais néanmoins, comme on dit les autres, ça prend trop de temps. Ça traîne trop. Et dans l'instruction d'une affaire judiciaire, nous savons que plus les enquêtes traînent, plus on a des difficultés à mettre la main sur les témoins, à recueillir les éléments des preuves, et voilà quoi. Donc, c'est la lenteur avec laquelle la Cour pénale est en train de procéder est un quelque peu, à mon avis, excessive.
Mais en comparant avec ce qui se passe ici dans les juridictions congolaises, quand même, Madame Maître Thérèse, ici, il y a des gens qui sont en prison, peut-être des mois et des mois sans connaître pourquoi ils sont en prison, et qui n'ont même pas l'espoir d'être jugés parce que son dossier a été classé peut-être en dessous de plusieurs autres dossiers par le magistrat ou le juge parce qu'il doit peut-être essayer de corrompre.
Il y a une part de vérité dans ce que vous dites, Claude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui traînent aussi devant les juridictions nationales, mais la mission de la Cour pénale n'intéresse pas que les individus. Parce que devant les juridictions nationales, c'est plus le sort d'un individu, mais la sensibilité est limitée à un certain niveau. Alors que l'instruction de la Cour pénale internationale est plus... c'est plus étendu, ça concerne non seulement l'individu qui est inculpé, non seulement les victimes qui attendent un jugement, mais également le sort de tout un peuple, vous comprenez, et même de la communauté internationale. Voilà pourquoi c'est la Cour n'a pas la compétence limitée à un seul État.
Merci beaucoup, Maître Thérèse, d'être intervenu depuis Kinshasa et d'avoir donné une analyse de spécialiste puisque vous êtes avocate. Au revoir. Nous allons vous donner aussi le temps de répondre. Hein. Patrick Tchiboui, vous êtes assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale et vous êtes notre invité dans ce studio juste dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs.
Patrick, il y a beaucoup de questions, d'interrogations des auditeurs. Il y a par exemple Mathieu qui dit que est-ce que le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, est accompagné d'une autorité congolaise dans sa tournée, dans sa visite en Ituri.
Bon, je crois que de manière générale, la préoccupation était de savoir qu'est-ce que le procureur va faire là-bas.
Ouais.
Et je pense que par rapport à cette question, la réponse est tout à fait simple. L'action que la Cour mène est une action qu'elle mène au profit des populations et pour l'intérêt des populations. Et cette action, la Cour ne la mène pas pour son intérêt propre, elle le fait au bénéfice des populations. Et l'organe qui a reçu le mandat de rechercher les auteurs des infractions, de les identifier, c'est le procureur de la Cour pénale internationale. Et donc il est tout à fait normal, et je pense d'ailleurs que cette action devrait être saluée par tout le monde, appréciée par tout le monde, qu'un organe aussi haut que le procureur de la Cour pénale internationale, le numéro 1, de l'organe qui a le mandat de rechercher les auteurs des infractions, de les identifier, de les présenter à la Cour pour que le mandat d'arrêt soit lancé contre eux, ça devrait être salué que ce haut responsable descende sur le terrain pour expliquer ce qu'il faut aux populations, parce qu'en fin de compte, ce qu'il fait, il le fait pour ses populations. Il le fait pour l'intérêt de ces populations. Donc c'est juste ça, le soubassement, la raison d'être principale de la présence du procureur de la Cour pénale internationale en Ituri, c'est échanger avec les différentes couches de la population, les ONG, la société civile, les médias, la presse, et leur expliquer exactement ce qu'il fait, mais également recevoir d'eux l'image qu'ils se font de ce que lui fait en tant que procureur de la Cour pénale internationale.
Mais beaucoup d'auditeurs pensent également, ils reviennent hein, sur ça que la Cour pénale internationale ne semble concerner que les Africains, parce qu'il n'y a que des Africains dans les prisons de la CPI, alors que dans le monde entier, il y a des gens qui commettent des exactions. On a connu le cas des Américains dans leur base de Guantanamo, où les gens ont été torturés avec des atrocités. Est-ce que ça ne les concerne pas aussi?
Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il est important que l'on sache que tous les organes de la Cour pénale internationale, notamment le procureur, les juges, les greffiers, toutes les institutions de la Cour ont ce qu'on appelle une compétence limitée. Nous ne pouvons pas faire en dehors de ce que prévoient les textes juridiques de la Cour, en dehors de ce que prévoit le statut de Rome. Que prévoit le statut de Rome? Trois possibilités pour saisir la Cour. Un État qui a ratifié le statut de Rome peut saisir la Cour. Le procureur de ses propres initiatives peut mener des enquêtes. Et le Conseil de sécurité peut demander à la Cour de mener des enquêtes. Les trois seules possibilités. Et si, dans la situation qui prévaut en Afrique, j'aimerais encore le répéter, toutes les enquêtes que nous menons en Afrique, en dehors de l'enquête au Darfour, ces enquêtes sont été faites à la demande des gouvernements de ces pays. Cela ne veut pas dire que lorsque ces gouvernements demandent à la Cour pénale internationale de venir mener des enquêtes, que ces gouvernements ne peuvent pas continuer à également à juger d'autres personnes pour les types de crimes qui sont de compétence de la Cour. Vous avez un exemple pour la RDC. Nous avons en RDC déjà des jugements rendus par des tribunaux militaires notamment qui portent sur des crimes de guerre, sur des crimes internationaux, des crimes qui sont de compétence de la Cour. Cela ne veut pas dire que ces tribunaux nationaux ne peuvent pas le faire. Le principe fondamental, c'est que la première responsabilité revient aux juridictions nationales. Mais les États, en créant la Cour, se sont dit, si pour des raisons bien spécifiques déterminées par le statut de Rome, nous ne pouvons pas juger ces personnes, nous avons la possibilité de demander à la Cour de juger, de mener des enquêtes pour identifier le responsable de ces crimes. Et ça, c'est à l'avantage de tout le monde, parce que maintenant, il y a un peu ce qu'on peut appeler un double degré de juridiction. Lorsqu'il y a un blocage sur le plan national, lorsque l'État lui-même sent qu'avec les réalités sociopolitiques, économiques du pays pour le moment, je ne suis pas en mesure de pouvoir mener ce type d'enquête, maintenant l'État peut demander à la Cour pénale internationale de le faire. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est un signe fort qui montre la volonté d'un État de lutter contre l'impunité. Sinon, il ne le ferait pas. Mais lorsqu'un État veut véritablement lutter contre l'impunité, qu'elle réalise qu'en son sein, elle ne peut pas le faire, elle demande à la Cour pénale internationale de mener des enquêtes, cela prouve que cet État veut véritablement que dans ce pays qu'il n'y ait pas d'impunité.
Oui, mais Ngondji l'a d'ailleurs dit que c'est une grande avancée en instituant la Cour pénale internationale parce que, d'après lui, hein, d'après Maître Ngondji, beaucoup de dirigeants africains ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, hein, ils ne pourront plus commettre des exactions, emprisonner pour rien ou faire tuer des gens. Voilà, ça c'est d'après Maître Ngondji. Il y a aussi la question de Didier des Guadolités dans l'Équateur qui demande, est-ce qu'un pays signataire du statut de Rome peut se retirer de la Cour pénale internationale? Et puis, votre réaction par rapport à la position de l'Union africaine qui a carrément refusé de collaborer avec la CPI pour l'arrestation du président soudanais Omar Ben Béchir?
Comme on l'a dit tout au début de cette émission, il faut faire un distinguo entre les déclarations politiques et les engagements juridiques. L'Union africaine n'est pas membre du statut, n'est pas membre de la Cour pénale internationale en tant qu'État ratifié le statut de Rome. Ce sont les
États. Mais il y a des États dans l'Union africaine qui ont signé le statut de Rome.
Tout à fait d'accord. Alors lorsque l'Union africaine prend une position, une position politique comme vous la présentez, ce que nous regardons au Cour pénale internationale, ce sont les engagements juridiques des États africains, membres de l'Union africaine, qui ont ratifié le statut de Rome. Et au stade actuel, il n'y a aucun État africain qui a ratifié le statut de Rome dans le Cour pénale internationale qui s'est retiré. Cela voudrait dire que juste au moment où nous parlons, en dehors, je respecte tout à fait, en dehors de toute position politique que peut avoir l'Union africaine, tous les États africains qui ont ratifié le statut de Rome à la Cour pénale internationale, au moment où nous parlons, sont encore tenus par leur obligation juridique de coopérer avec la Cour pénale internationale du moment qu'ils sont encore tenus par le statut de Rome et qu'ils ne se sont pas retirés.
Est-ce qu'il peut un État qui a signé le statut de Rome, donc qui est devenu membre de la Cour pénale internationale, peut se retirer? Est-ce qu'il peut se retirer?
Il y a une disposition, des dispositions spécifiques clairement établies par rapport à cela, mais il y a un mécanisme qui est en place. Ce que nous devons retenir de manière générale, c'est vrai, un État peut se retirer, mais cela ne veut pas dire que ce retrait n'a pas un impact immédiat sur le processus en cours. De manière claire, cela voudrait dire que si un État, par exemple africain, se retire aujourd'hui, cela ne veut pas dire que son obligation de coopérer par rapport à une procédure qui est en cours actuellement est éteinte et n'existe plus. Donc il y a tout un mécanisme qui est mis en place par le statut de Rome qui réglemente la possibilité pour un État de se retirer.
Voilà, trois auditeurs sont en ligne. Justin de Kinshasa, Roger de Kinshasa et Guillaume de Mahagui. Je demande aussi quand même aux dames, hein, aux femmes, de pouvoir nous appeler au 081 99 77 800, parce que cette émission ne concerne pas que les hommes. Il y a vraiment moins de femmes qui interviennent. Je vous appelle donc à pouvoir intervenir. On commence avec vous, Justin de Kinshasa. Bonjour. Quelle est votre réaction?
Bonjour, Claude. C'est Roger. Hein? C'est pas Justin non plus.
Oui, Roger.
Ok. Claude, moi, je suis vraiment ahuri, hein, de voir un peu la réaction de certains compatriotes.
Ouais,
je respecte beaucoup Maître qui est votre invité là-bas, et je le comprends.
Il n'est pas avocat.
Il n'est pas avocat.
Non.
C'est pas un juriste. Non.
Non, il est assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale.
Voilà,
c'est un homme des médias.
Patrick, même si j'ai tripoté un peu sa fonction, que je ne connaissais pas très bien, c'est de bonne guerre qu'il tienne des discours qu'il tient. Il est employé là-bas. Il est payé pour ça. Et il n'a aucun intérêt que quelque chose de mal arrive à la CPI. Sinon, il perdra son emploi.
Oh, ça, c'est personnel. Oh. Allez-y directement au but.
Ça, c'est
hein,
normal,
au but.
Oui.
Ça, c'est, il ne faut pas toucher à sa vie privée.
Trois choses, M. Claude.
Ouais. Hein.
Nous, les Africains, là, je parle d'abord en tant qu'Africain, nous sommes pris dans un piège par les néocolonialistes. C'est vrai qu'il faut punir les crimes. C'est vrai qu'il faut mettre un terme aux exactions, aux crimes contre l'humanité. Et au départ, le statut de Rome avait comme première philosophie parer à la lenteur de la CIJ. La CIJ qui est complètement paralysée, qui prend trop de temps et tout, il fallait trouver une cour, un instrument assez rapide pour pallier à cette lenteur. Dès lors que la même tare qui était reprochée à la CIJ refait surface avec la CPI, je pense que nous ne sommes pas sortis du bourbier. Deuxième chose, quand on dit que cette cour a été pensée tout simplement pour les Africains, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, les Américains et les autres, ils savent bien que l'histoire du genre, révolution, les chefs de guerre, les exactions, c'est dépassé pour eux. C'est pour le simple continent africain. Et vous savez que pour ratifier le statut de Rome, certains pays, notamment nous, les pays africains, ont reçu des pressions du genre, si vous ne ratifiez pas, on va retarder votre truc de PPTE. On ne va pas, vous n'allez pas accéder au service de l'effacement de la dette si vous ne ratifiez pas le truc. Nous étions liés de deux mains et de deux pieds. Et les États africains n'avaient, comme ils ont toujours la politique la main tendue vers l'Occident, ils n'avaient pas d'autre issue que de s'allier là-bas.
Mmh,
troisième
voilà.
Chose.
Rapidement.
Allô, oui.
En une phrase, s'il vous plaît, il y a d'autres auditeurs.
Troisième chose, la saisine. Lorsque Patrick dit qu'il ne travaille que sur base de ce que prévoit le texte, mais c'est là que les Occidentaux ont verrouillé les choses. Que Moreno aille se saisir, parce qu'il est là pour rechercher les infractions. Qu'il aille dans la bande de Gaza, là où était allé le secrétaire général de l'ONU, pour aller constater là où les Israéliens ont même bombardé les bâtiments officiels des Nations Unies. Mais il ne peut pas saisir les Nations Unies parce qu'il sait que les États-Unis vont mettre un veto là-bas. Or, dans le Conseil de sécurité, il n'y a aucun État africain.
Il y a aussi des États qui n'ont pas signé le statut de Rome, hein, comme la Chine, les États-Unis. Je ne sais pas si Israël a signé ce statut de Rome pour permettre à la CPI.
Ils n'ont pas signé, et de toutes les façons, si un dossier se soulève là-bas, si c'est un État qui est protégé par un grand, le grand qui est représenté dans le Conseil de sécurité, il va poser son droit de veto.
Merci beaucoup, Roger, pour votre intervention et bonne journée chez vous. Justin, vous également, vous êtes à Kinshasa. Allez-y, vraiment, il faut être précis hein, et concis parce qu'on n'a plus que 8 minutes. Bonjour, Justin. Apparemment, on a beaucoup de problèmes avec Justin. Nous allons descendre à Mahagui dans la province orientale. Bonjour, Guillaume. Guillaume.
Oui. Oui, alors je vous écoute, monsieur. Alors je vous écoute.
Oui, c'est nous qui vous écoutons plutôt. Quel est votre point de vue? Comment comprenez-vous la mission de la Cour pénale internationale? Et puis, qu'est-ce que vous attendez d'elle?
Moi, je comprends de la manière suivante. Cette mission est tout à fait une justification pour nous tromper les peuples congolais. Parce que moi, parce que l'État, je vois beaucoup l'incapacité de la CPI. Je vois beaucoup l'incapacité de la CPI. Et puis, je regrette beaucoup la CPI dans cet État. Auparavant, la CPI n'était pas comme ça. Quand on voit, par exemple, à pleine guerre du Kosovo, auparavant, le 22 mai 1999, le procureur de la CPI n'a pas hésité d'inculper le président de l'ex-Yougoslavie, M. Lulov, et ses quatre autres dirigeants. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, dans cette limite, la CPI est vraiment impuissante. Donc, la CPI cherche les gens qui ne sont pas protégés. Si vous êtes protégés, la CPI ne peut jamais avoir quelques occasions de vous suivre. Alors, qu'est-ce qu'on dit de la CPI? On dit que la CPI a la décision de Courbet-Larra qui soit évolue dans double direction. C'est-à-dire, la première, c'est quoi? C'est définition de l'infraction internationale et puis établir une justice internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, la justice est définie que c'est la justice itourienne.
Bon, Guillaume, on vous a compris votre idée, s'il vous plaît.
Je n'ai pas l'attendance de me couper la parole. Je n'ai pas encore terminé.
Mais soyez bref, parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs qui doivent intervenir.
Ça ne poursuivre les vendeurs des armes en Afrique, alors que les Congos n'ont pas une usine de fabrication des armes. Alors, c'est-à-dire, dans cette limite, la CPI est vraiment impuissante. Mais si vous êtes protégé, la CPI ne peut jamais...
On a déjà entendu ça. Guillaume, s'il vous plaît. Guillaume, on a déjà entendu ça. Mais qu'est-ce que vous répondez à Maître Yévin Gonger qui pense que l'institution de la CPI est une grande avancée parce que cela va empêcher certains chefs d'État, certains gouvernants ici africains ou dans le monde de faire n'importe quoi, de faire tuer des gens, de faire emprisonner des gens dans des conditions inhumaines, et ça va leur permettre, enfin, ça fait un avertissement contre eux. Guillaume?
Oui, alors, je vous écoute.
J'ai dit, mais Maître Ngondia dit que l'institution de la CPI n'est pas simplement un désavantage, c'est aussi un avantage. Il dit, par exemple, que ça va permettre à certains, faire un avertissement contre certains dirigeants africains pour ne pas mal se comporter pendant qu'ils sont au pouvoir, à ne pas faire arrêter des gens ou les tuer des gens.
Quel dirigeant congolais qu'il faut prendre? Alors, si un dirigeant qui est protégé, la CPI ne peut jamais le poursuivre. Alors, quand on dit Louis Moreno n'est pas tombé du ciel, mais il a été fabriqué par des hommes pour être des hommes. Alors, si vous êtes protégé, la CPI ne peut jamais vous poursuivre. Comment est-ce que la CPI ne peut pas arriver à poursuivre les vendeurs des armes au Congo? Car le Congo n'a pas une usine de fabrication des armes. La CPI ne poursuit jamais les Américains. Les Américains et les Chinois n'ont pas ratifié les traités de Rome.
Merci beaucoup, Guillaume. Je rappelle que vous interveniez depuis Mahagi, dans la province orientale. La dernière auditrice, c'est Cécile, qui est à Kinshasa. Bonjour, Cécile. Partagez-vous le même point de vue que ce qu'on vient d'entendre là.
En tout cas, moi, je ne partage pas le point de vue avec ceux qui viennent d'intervenir, surtout la personne qui venait de dire que la Cour pénale internationale a été faite pour les Africains non plus. Et d'autres qui disaient que certains États africains ont été contraints à ratifier, adhérer au statut de Rome.
Je cite vous alors.
Oui, moi je me base sur le principe du libre adhésion. On ne peut pas contraindre un État à adhérer, à ratifier à une convention, à un statut. L'État lui-même est libre d'adhérer à ratifier.
Mais quelqu'un dit qu'on nous a fait de pression sur les Africains parce que s'ils ne signaient pas, ils n'allaient pas recevoir d'aide ou de réduction de leur dette.
Moi je dis que c'est faux. C'est faux. Et c'est, moi, je pense que ce n'est pas vrai. Parce que tout État est libre d'adhérer à une convention quelconque. Nous n'avons pas été contraints, même si on nous avait contraints. Mais il faut d'abord voir les principes, c'est quoi? La libre adhésion, la liberté d'adhésion. Et aussi, ce ne sont pas seulement les dirigeants africains qui sont c'est-à-dire la Cour pénale internationale n'était pas...
On entend beaucoup de bruit, hein, tout bon autour de vous. On entend un enfant qui pleure, hein, Cécile. Résumez-vous parce qu'on doit...
Je suis partie à l'université, je suis en route.
Merci beaucoup, hein. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour vous accorder la parole. Merci pour votre intervention, Cécile Zapelier de Kinshasa. Patrick, on va conclure avec vous.
Oui, je voudrais vraiment, parce que... On aura l'occasion peut-être dans les émissions d'y revenir. Mais je voudrais rassurer tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment-ci, les rassurer une fois de plus sur le fait que la Cour pénale internationale est une institution judiciaire qui ne s'acharne pas sur les Africains. Je voudrais rassurer les auditeurs que la Cour pénale internationale est une institution judiciaire qui travaille sous base d'un principe fondamental, notre doctrice en a parlé tout à l'heure, sous base de la liberté à chaque État de pouvoir ratifier le statut de Rome ou pas. Donc j'aimerais vraiment que les auditeurs aient confiance à la Cour pénale internationale. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour en venir. Et j'aimerais rappeler ici, comme je l'ai dit au début, que l'histoire de la création de la Cour pénale internationale est intimement liée avec l'Afrique. Et le premier pays à avoir ratifié le statut de Rome de manière volontaire est un pays africain. Et lorsque vous lisez tous les annales de la création des discussions à Rome, vous verrez comment les Africains se sont investis pour qu'on crée la Cour pénale internationale.
Voilà, Patrick Tchouboui, je rappelle que vous êtes assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale, CPI. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci également à nos auditeurs d'être intervenus. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission Parole aux auditeurs. Demain vendredi, nous discuterons avec vous de ce fléau social qui commence à prendre de l'ampleur en RDC. Il s'agit de la consommation d'alcool frélaté, cet alcool qui fait que certaines personnes dorment pendant deux jours de suite après l'avoir pris. Il est appelé Supunanto, Loa Kinshasa, Café Room, Goma et peut-être par beaucoup d'autres noms dans vos provinces. Est-ce que ce phénomène existe aussi chez vous et comment lutter contre ce fléau social qui entraîne parfois la mort? Réagissez dès maintenant en nous envoyant votre point de vue sur cette question par SMS au 081-99-77-800 et par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Titi Poute Piro et la Mégie vous ont préparé cette émission coordonnée éditorialement par Ben Kabamba. La mise en onde était signée Eddy Marquis. Cette émission peut être réécoutée sur notre site www.radiookapi.net si vous l'avez manqué. Elle est rediffusée à 20h heure de Kinshasa et 21h à l'est et au centre du pays, juste après le bulletin d'information de Radio Okapi. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.